Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Samedi, le RSA, le revenu de solidarité active, aura 10 ans. Le RSA, imaginé par Martin Hirsch au sein du gouvernement Fillon, avait pour but d'inciter ses bénéficiaires à rechercher un emploi et ceux qui avaient un emploi, même mal payé, à ne pas l'abandonner pour profiter d'une inactivité supposément plus rémunératrice grâce aux aides sociales. Une décennie plus tard, le RSA a évolué et les aides sociales s'apprêtent à nouveau être réformées sous l'impulsion d'Emmanuel Macron pour créer un revenu universel d'activité dont le but est de regrouper les aides et de les rendre plus accessibles aux bénéficiaires sous conditions. Peut-on survivre avec les minima sociaux? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont en studio avec nous. Marc de Basquiat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en politique publique au sein du cabinet Stepline. Et Didier Gélot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien secrétaire général de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et membre du bureau de la Fondation Copernic. On met un pognon de dingue dans les aides sociales et les gens, ils sont quand même pauvres. C'est ainsi que s'exprimait l'été dernier Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée par celle qui était encore sa conseillère en communication et qui est devenue depuis porte-parole du gouvernement. Cela coûte si cher que cela, les aides sociales en France, comparativement aux autres pays européens, Marc de Basquiat?
On parle toujours du RSA. Le RSA, c'est 11 milliards d'euros. Bon, c'est vraiment le cœur, c'est le dispositif, la brique essentielle de notre système. Néanmoins, il faut y ajouter aussi plein de choses. L'aide aux handicapés, bon, c'est 6 milliards. Il y a également les aides pour la prime activité, qui est un complément de revenus pour les bas revenus, qui est également 6 milliards. Voilà. Donc c'est quelques paquets de milliards par-ci par-là.
Les APL, mais, les aides publiques au logement.
Voilà, les aides publiques, c'est 18 milliards. Bon. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que finalement, toutes ces aides qui sont vraiment positionnées pour les personnes les plus fragiles, quelque part, sont d'un montant, d'une masse qui n'est pas si grosse ça par rapport à la redistribution totale de notre pays, qui est constituée essentiellement de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, qui est progressif, donc progressif de manière assez forte, a un impact de redistribution qui est beaucoup plus élevé que ça, de l'ordre de 200 milliards. Et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est implicite, on le voit pas. Mmh. Mais la redistribution en France, c'est essentiellement via l'impôt sur le revenu.
Didier Gélot, comparativement aux autres pays européens, ça coûte si cher que ça, cette
procédure? Alors, comparativement aux autres pays européens, effectivement, la France est parmi les pays qui dispose d'une protection sociale importante, et en particulier pour les personnes les plus en difficulté. Et de ce point de vue, je dirais, on ne peut que s'en féliciter. Hein. Il ne s'agirait pas de passer sur une logique consistant à dire, comme l'a malheureusement dit Emmanuel Macron, ça coûte un pognon de dingue, mais il n'a pas dit que ça. Il a dit ça coûte un pognon de dingue et ça sert à rien. Et je crois que c'est peut-être, on peut peut-être s'arrêter quelques minutes là-dessus,
oui,
parce que évidemment, tout le débat, la question est importante. Hein. Est-ce que les sommes qui sont allouées pour les personnes les plus pauvres, on citait 25 milliards d'euros, hein, c'est quelque chose comme 1,2% du PIB. Hein, donc c'est une somme qui est effectivement conséquente, mais inversement à ce qui était dit par Emmanuel Macron, je pense le contraire. C'est-à-dire que ces aides ont un pouvoir de redistribution, ça a été dit, un pouvoir de redistribution tout à fait important et permettent à des personnes qui sont aujourd'hui en situation de pauvreté d'en sortir. Si on n'avait pas les aides ciblées en direction des populations les plus pauvres, eh bien on aurait à peu près 5 millions de personnes supplémentaires en situation de pauvreté.
Ça veut dire que ces aides sociales, actuellement en situation de pauvreté en France, il y a 9 millions de personnes, c'est ça?
Il y a selon les chiffres, entre les chiffres français et les chiffres européens, on peut dire 9 millions, on peut dire 11 millions, mais enfin globalement, voilà, on est autour de ce... Et on aurait donc 4 millions de personnes qui seraient... 5 millions, pardon, qui seraient pauvres. Donc ça veut dire que ces aides servent à quelque chose, elles servent à réduire la pauvreté, elles réduisent en particulier la grande pauvreté, elles permettent à des gens qui ne pourraient pas s'en sortir sans cela, bon, quelque part, de tenir un petit peu la tête hors de l'eau.
Oui, c'est la deuxième partie de la phrase du président, Marc de Basquiat, les gens sont toujours pauvres. Ça veut dire qu'on ne vit pas grassement des aides sociales, non?
On ne vit pas grassement, mais ceci dit, est-ce qu'on cherche à créer un État où les gens vivent grassement alors qu'ils ne travaillent pas et qu'ils n'ont pas d'activité? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, les Français nous disent régulièrement, ils nous rappellent très, très couramment, y compris dans la rue, qu'ils n'ont pas tellement envie d'un système où les personnes vivent grassement s'ils ne travaillent pas. Donc je pense qu'il faut toujours garder ça en tête, c'est que même si... Par le cœur, nous aurions envie d'être très généreux avec les personnes qui sont les plus fragiles, c'est le cas de plein de personnes, hein. Je pense que les Français disent, attention, nous, on travaille tous les jours, on se lève tous les matins, on fait des efforts, on fait plein de trucs. Nous ne comprenons pas que les aides soient aussi généreuses avec les personnes qui, eux, ne travaillent pas. Donc, il y a cette difficulté-là qu'il faut toujours regarder. On veut être généreux, aider les personnes fragiles, mais néanmoins, il ne faut pas démotiver la population en faisant une distorsion trop forte entre les actifs et les inactifs.
Elles sont si généreuses que ça, Didier Gelot, ces aides? J'ai envie de parler de la légende de la prime de rentrée scolaire qui est convertie en écran plat. C'est une légende urbaine qui a la vie dure. Pourquoi tout ça?
Bah, malheureusement, parce que certains hommes politiques vont dans ce sens. Certains hommes politiques, et le président de la République actuel et d'autres avant lui, ont souvent colporté la légende qu'effectivement, on peut vivre grassement avec les minima sociaux. Sincèrement, je crois que c'est pas très compliqué d'expliquer aux auditeurs que vivre avec 500 € par mois, puisque c'est à peu près le montant du RSA, c'est assez compliqué de vivre grassement. D'autant plus que tous les chiffres dont on dispose, tous les travaux qui ont été menés dans ce domaine, et je pense aux travaux qui ont été menés par la direction statistique des affaires sociales, hein, donc qui est vraiment là au cœur même du sujet, nous montre le contraire. Les allocataires des minima sociaux sont en grande difficulté financière. Il faut voir, je vais pas être trop long, hein, mais il faut voir que on a tous citoyens, nous avons ce qu'on appelle des dépenses contraintes, hein. C'est le loyer, c'est le logement,
incompressible.
Les dépenses incompressibles, on les appelle par différents termes. Eh bien, un chiffre simplement pour les allocataires d'IMA sociaux, lorsqu'on a, payé ces dépenses incompressibles, il vous reste à peu près 150 à 180 euros par mois. Qui peut vivre aujourd'hui avec 150 à 180 euros par mois pour se nourrir, pour se vêtir, là, après avoir payé le loyer, le gaz, l'électricité, enfin voilà.
Le but, Marc de Basquiat, c'est de donner envie aux gens qui touchent ces allocations et qui donc n'ont pas grand-chose en surplus à la fin du mois, c'est de se réinsérer, de chercher davantage un emploi.
L'enjeu est là, effectivement. L'enjeu est là, c'est-à-dire que la manière qu'on veut aider les personnes pour qu'elles soient... qu'elles aient le minimum d'intégration à la société, qu'elles puissent vraiment être debout et du coup être dans un mode actif, et en même temps ne pas mettre de barrières qui les freinent dans leurs initiatives pour reprendre une activité salariée ou auto-entrepreneur, quelle que soit. Donc quelque part, le dispositif actuel, qui a un inconvénient, c'est que sa complexité, ses freins, ses contrôles, ses formulaires de 7 pages qu'il faut remplir tous les 3 mois, toutes ces choses-là font que les personnes, finalement, se retrouvent dans une situation où, oula, je suis dans mon bunker, je reste dans mon bunker, j'ai pas intérêt à sortir, parce que si je sors de mon bunker et que je prends un petit boulot, je vais tout perdre, je vais fragiliser ma famille, donc je ne bouge pas. Donc voilà, donc l'enjeu du moment, c'est d'arriver à aider les personnes de manière tellement simple que quelque part, elles n'auront pas de frein à se mettre dans un chemin actif. Et c'est ça, je crois, que l'enjeu énorme de notre sujet actuellement.
Vous évoquiez à l'instant la complexité du système. Hein. Le système est-il tellement touffu que finalement les bénéficiaires potentiels ne profitent pas de tous leurs droits, Didier Gelot?
Eh bien, effectivement, vous touchez un des sujets essentiels depuis maintenant, malheureusement, de très très longues années, à savoir ce qu'on appelle le non-recours. C'est-à-dire que sur le RSA, par exemple, les chiffres, malheureusement, sont stables depuis de très nombreuses années. On a à peu près un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA qui ne recourent pas à ce dispositif. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne recourent pas à ce dispositif? En partie parce que c'est un dispositif qui stigmatise. On n'aime pas être, aidé, n'aime pas être assisté, voire on se rappelle la phrase de Nicolas Sarkozy sur l'assistanat, c'était évoqué à l'époque, de la société.
Si on sait que je touche le RSA, je vais être mis
de côté. Eh bien, je vais avoir évidemment un stigmate qui va montrer que je suis, souvent c'est un veignant, hein, quelqu'un qui ne veut pas travailler, voilà. Donc ça, c'est évidemment un des facteurs tout à fait forts pour le non-recours. Il y a un autre facteur qui est connu, qui est celui du manque d'information. Malheureusement, on ne dispose pas d'informations. Et je serais d'accord avec vous sur ce point aussi, sur la complexité des dispositifs. On a effectivement des dispositifs qui sont relativement nombreux, et peut-être qu'une des solutions, on n'en est peut-être pas encore là dans la discussion, je ne sais pas si on y viendra, mais un des débats forts aujourd'hui, c'est celui de rendre moins complexe le dispositif, et j'ajouterais pour ma part, de le rendre automatique. C'est-à-dire que bien évidemment, pourquoi une personne dont les revenus ne lui permettent pas de vivre, qui a droit droit au RSA, pourquoi est-ce que ce RSA n'est pas versé automatiquement sans avoir à passer par différents guichets, tous plus ou moins compliqués?
Le but de la réforme, ce serait de rassembler le plus d'aides possibles, toutes celles que vous évoquiez en début d'émission, Marc de Bastia, dans un guichet, une prestation unique.
Alors ça, c'est l'effort que fait actuellement le gouvernement avec le revenu universel d'activité, qui est étudié par Fabrice Langlard, qui est haut fonctionnaire, qui travaille vraiment de manière dédiée là-dessus. Donc sous le contrôle donc de Christelle Dubos, secrétaire d'État. Ce travail-là, qui est un travail qu'il faut faire, probablement, qui est un travail d'analyse des incohérences actuelles, la complexité actuelle, pour arriver à quelque chose de plus unifié. Mais néanmoins, quand on regarde ces travaux, cela reste extrêmement compliqué. Donc pour le citoyen lambda, qui va avoir une prestation qui va s'appeler RUA demain, cette prestation restera quand même quelque chose d'un petit peu opaque. Même s'il y a des gros progrès, enfin, franchement, je ne serai pas celui qui va critiquer la démarche qui est faite actuellement. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. En remarquant que finalement, les transferts principaux étant fiscaux, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, finalement, il faudrait peut-être regarder comment on peut modifier l'impôt sur le revenu pour que lui-même absorbe dans sa logique la mise à disposition d'un impôt, d'un crédit d'impôt pour les personnes qui sont en dessous d'un certain niveau de revenu. Et donc bénéficier l'automaticité de la démarche fiscale pour que le versement mensuel soit fait automatiquement par un exercice fiscal, ce qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple.
Fiscaliser les aides sociales, Didier Gellot, l'idée c'est que on connaît le fisc français, et il est très efficace, personne ne passe sous les radars, c'est l'idée.
L'idée, la fiscalisation, le problème de alors, j'aurais peut-être un débat sur ce point, parce que...
On est là pour ça.
Nous allons y arriver.
je pense effectivement que revoir la fiscalité en France est une obligation si on veut effectivement s'attaquer fortement à la pauvreté. Mais cette redistribution fiscale doit passer par une augmentation des impôts pour les plus riches, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les tranches telles qu'elles sont construites en France ne permettent pas une redistribution suffisante, et c'est peut-être ça sur lequel il faudrait réfléchir. Parce que n'oublions pas qu'il y a tout de même une personne sur deux qui ne paye pas d'impôts. Aujourd'hui la redistribution se fait quand même, hein, c'est vrai.
Quelles sont les aides qui sont le plus efficaces, celles qui atteignent leur but, Marc de Bastia? Il y en a quand même.
Les plus efficaces, ce sont celles qui sont versées sans complication, que les personnes reçoivent sans se poser de questions. Typiquement, tout ce qui est aide pour les enfants, par exemple, les allocations familiales. Allocations familiales, c'est relativement admis, c'est assez systématique. Il est vrai que depuis certaines réformes qui ont eu lieu ces dernières années, on a complexifié comme pas mal les choses. Néanmoins, aujourd'hui, on reçoit pour son enfant de l'ordre à 200-250 euros par mois par enfant. C'est l'ordre de grandeur.
À partir de deux.
Même à partir de un. À partir de 1, si vous êtes au RSA, vous avez un complément de RSA pour votre enfant.
C'est vrai.
Si vous êtes mère isolée, vous avez des aides pour votre enfant, même si il n'y en a qu'un seul. Si vous êtes avec des revenus élevés, vous avez une baisse d'impôt pour votre enfant. Donc il y a plusieurs mécanismes qui se conjuguent. En fait, il y en a 10, pour être très précis, il y a 10 mécanismes qui se conjuguent pour l'aide aux enfants. Rien pour les enfants, c'est 10 mécanismes. Mmh. Et c'est 10 mécanismes qui ont tous des modes de calcul absolument hallucinant. On trace une courbe, je travaille là-dessus beaucoup, on trace des courbes qui décrivent comment évolue l'aide aux enfants en fonction du nombre d'enfants, en fonction du statut des parents, mariés, pas mariés, concubins et autres. Et c'est un paquet de spaghettis. Ça n'a pas d'autre explication que ça. C'est incompréhensible. Donc on a bien des mécanismes qui fonctionnent, mais sur lesquels il y aurait beaucoup, beaucoup à dire en termes d'équité et d'efficacité.
Est-ce qu'il y a, Didier Gellot, des aides sociales dont l'efficacité est particulièrement montrée du doigt, dont l'inefficacité, pardon, est particulièrement montrée du doigt?
Écoutez, moi, je montrerai plutôt celles qui sont efficaces. Hein. On voit que ça a été dit. Hein, les allocations familiales ont un pouvoir redistributif tout à fait important. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas elles sont pas ciblées directement sur les publics pauvres. D'autres comme la PL aussi a un rôle redistributif tout à fait fort. Alors de ce point de vue, c'est vrai que l'affaire des 5 euros,
les 5 euros PL, de baisse, oui.
Bon, alors ça peut paraître pour certains, surtout pour ceux dont les revenus sont relativement confortables, assez anecdotique, mais ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas pour ceux qui effectivement sont à 5 euros près, et le fait de voilà le fait de baisser ce type d'allocation joue grandement dans le fait d'appauvrir certaines populations.
Alors dans quel sens, Marc de Basquiat, faut-il réformer le système des aides sociales, plus de simplicité, plus de globalité, plus de redistribution par la fiscalité?
Par la fiscalité. En fait, dans la fiscalité, dans la redistribution, dans la progressivité actuelle de l'impôt, nous avons déjà un transfert extrêmement important. Comme je vous disais tout à l'heure, de l'ordre de 200 milliards, si possible expliquer à la radio. Voilà, donc il y a une très très grosse effet de la progressivité. Et en fait, l'idée, c'est de poursuivre ce transfert qui a lieu pour les revenus moyens et élevés, le poursuivre ça vers les bas revenus, voire les non-revenus. Et très naturellement, on induit un transfert fiscal qui serait, je dirais, je donne le chiffre qui sort directement de l'équation actuelle de l'impôt, qui serait de 483 euros par mois. Dans l'impôt actuel, il y a déjà un transfert implicite, qu'on ne voit pas mais qui est réel, de l'ordre de 480 euros par mois par adulte. Ce mécanisme-là, il serait facile à mettre en œuvre. Prolonger un existant jusqu'aux personnes qui ont les plus bas revenus, ça serait facile. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite, on peut faire le pont avec le RSA et tous les autres mécanismes, et du coup faire une simplification du système social tout à fait radical. Mais il faut commencer par la fiscalité. Parce que c'est bien par le fait qu'on collecte de l'impôt auprès des personnes qui sont en mesure de contribuer que l'on peut justifier les transferts qui ont lieu vers ceux qui ont les vrais besoins. Et donc, unifier ce mécanisme, ce serait beaucoup, beaucoup plus efficace.
À votre avis, Didier Gélot, le but de cette réforme qui va démarrer dans les prochains jours, en fait, hein, c'est de réduire le coût ou d'améliorer l'efficacité?
Et je pense malheureusement qu'il y a dans un contexte de pénurie tel qu'elle est présentée par le gouvernement, l'objectif de réduire les coûts des prestations sociales est certainement pas absent de la réflexion gouvernementale. Peut-être pour répondre à la question que vous avez posée à monsieur Basquiat, on l'a dit, hein, on est je crois là-dessus assez d'accord pour dire qu'il y a besoin de travailler sur la question de la fiscalité, mais j'aimerais quand même peut-être aussi sortir un peu de ce débat minima social, efficacité des minima sociaux, pour essayer de poser le problème des inégalités dans leur ensemble et de la pauvreté, parce que la vraie question aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des pauvres en France? Ben c'est parce qu'il y a des gens qui sont sans travail. Donc je crois qu'une des raisons essentielles, une des manières essentielles de lutter contre la pauvreté, c'est de permettre à ces personnes de retrouver un emploi. C'est bien l'emploi qui est aujourd'hui source de revenus. C'est évidemment, on ne souhaite pas être allocataire des minima sociaux toute sa vie. Donc la véritable réforme qu'il conviendrait de mener, c'est celle qui permettrait d'améliorer l'emploi et peut-être aussi se poser la question des minima sociaux autres que les minima sociaux pour les personnes pauvres. Le SMIC, par exemple, la revalorisation du SMIC pourrait certainement aider, là aussi, à sortir des personnes de la pauvreté. Il y a 2 millions de travailleurs pauvres aujourd'hui en France. Hein. Pourquoi sont-ils pauvres? Parce qu'ils ont une qualité d'emploi absolument déplorable et des salaires qui sont tout à fait insuffisants.
La question de l'emploi, Marc de Basquiat, c'est une question qui est prise en compte dans la conditionnalité de l'aide sociale liée à une contrepartie. La contrepartie, c'est la recherche active d'emploi. Ça, c'est important, ça apporte quelque chose.
Justement, c'est un peu la difficulté, c'est un peu le piège où nous sommes actuellement. C'est qu'on dit, voilà, on va vous donner de l'argent pour que vous puissiez vivre, mais bon, par contre, si vous bossez, on vous l'enlève. Du coup, les gens, ils hésitent. Ils disent, est-ce que je préfère être dans un truc où j'ai cette sécurité qui est là, ou est-ce que je prends le risque de... Bon. Et donc, ce que je défends, hein, avec ma mesure fiscale, c'est de dire, voilà, il faut sortir de ça, disant, finalement, la fiscalité fait le boulot, et donc, on est certain que les transferts auront lieu, quoi qu'il arrive, et les personnes peuvent librement prendre un boulot, même un petit boulot, même à temps partiel, même mal payé, ils peuvent se réinsérer grâce à ça, et donc, on préfère vraiment qu'il y ait une dynamique d'accès à l'emploi, plutôt qu'un matelas trop confortable, qui du coup serait démotivant pour la population.
Et la réforme des allocations chômage qui est actuellement en préparation par le gouvernement aura un rôle important à jouer, mais ce sera l'objet sans doute d'une autre émission. Merci Marc de Basquiat et merci à vous Didier Gélot d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Luna Timbal. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, rendez-vous avec Aurélien Devernois pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.